doigt. Les joues crevassées luisaient. Je croyais que c'était la pluie, mais il pleurait. Quand Jean Lino était enfant, son père, de temps à autre après le repas du soir, prenait le livre des psaumes et lisait un passage à voix haute. Le galon marque-page ouvrait toujours au même endroit. Il ne venait pas à l'idée de son père de le déplacer, de sorte qu'il lisait toujours le même verset, celui de l'exil. Aux rives des fleuves de Babylone, nous nous sommes assis et nous avons pleuré, nous souvenant de Sion. Jean Lino se rappelait le livre, sa couleur mordorée, la languette qui s'effilochait et surtout la gravure de couverture. Des gens aux faciès veulent, à moitié nus, avachis les uns sur les autres au bord d'une eau tiède, avec une harpe accrochée à une branche d'arbre. Il m'avait raconté n'avoir jamais fait le lien entre le verset et l'image. Lorsque son père articulait les mots, Jean Lino entendait gronder le pluriel des fleuves. Il voyait cingler et s'entrechoquer les bois morts sous un ciel de défaite. Quant à s'asseoir et pleurer, pour lui, ça voulait dire être en position d'attente, replié et seul. Il n'avait aucune instruction religieuse. Les Manoscrivi respectaient quelques fêtes avec la famille de sa mère, mais c'était surtout pour bouffer des carpes farcies. Jean Lino ne comprenait rien aux vers que son père lisait. Son père non plus, selon lui. Mais il aimait entendre les phrases venues du passé. Il se sentait participer à l'histoire des hommes, même au fond de la cour Parmentier. Et il s'assimilait aux trimballés, aux apatrides. Qu'avait réellement enregistré cette conne? Je me suis repassé la scène. Je me suis revue près de la porte vitrée derrière Jean Lino, tenant le sac à main et le manteau. Tenant le sac et le manteau? Tenant le sac à main de Lydie et le long manteau redingote vert que tout le quartier connaît? Il fallait oublier la version poubelle, revenir au récit précédent. Oui, je portais le sac et le manteau. Je les avais arrachés des mains de Jean Lino pour l'empêcher de commettre une folie. « Jean Lino, » j'ai murmuré, « nous devons appeler la police. » « Oui. J'ai une petite idée de ce qu'on pourrait raconter concernant ma présence. » « Oui. » J'ai détaillé l'histoire. Le prêt de la valise à Lydie. Sa venue désemparée chez nous. Notre visite pour constater la mort. Le guet. L'œilleton, l'imploration dans le hall. Il était sans réaction, il s'en foutait. Ça m'a agacé qu'il se foute de me tirer l'affaire. Il était sa femme, je faisais tout pour l'aider, et maintenant que c'était râpé, il se foutait de tout. Je l'ai secoué. Vous m'écoutez, Jean Lino? Il ne s'agit plus de vous maintenant, il s'agit de moi. C'est important que nous ayons la même version des faits. Oui, c'est important. Il fouille dans une poche poitrine. Il en sort des tickets et des boules de papier aluminium colorées. Il y a aussi un carré transparent d'autocollants de flèches qu'il jette par terre avec le reste. « Vous pouvez répéter ce que je viens de dire ?»« Je dis quoi quand j'arrive dans le hall et que je vous vois avec tout le bazar ?»« Vous m'arrachez le sac et le manteau et ?»« Et vous dites vous êtes fou ?»« Non. » Je ne dis pas tout de suite, vous êtes fou. Je dis d'abord, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Il regarde le sol et les vestiges de papier. Oui. Vous m'écoutez, Jean Lino. Vous dites, qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Et ensuite, je dis, vous êtes fou. Ne faites pas ça. Oui, oui, bien sûr, Elisabeth, je vous disculpe complètement, complètement. Il secoue la tête. Le tic de bouche est revenu à fond. Rien qui soit de nature à me rassurer. Vous avez votre portable sur vous? Non. J'ouvre le fourre-tout de Lydie et j'en sors le portable. On peut utiliser celui-là. Pourquoi faire? Pour appeler la police. Il regarde l'objet. Un androïde à rabat jaune avec un bijou de portable finissant par une plume.